They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What will be your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家，
正忙着切丁鸡，在跟人。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny, mais aussi Clément Salazar, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée ce matin par Alexandre Fougeron et mise en onde par Jean-Guilherme Mège. Quatrième volet consacré aux banques, nous allons parler ce matin de l'argent du crime. Daesh est sans doute l'organisation terroriste la plus riche de l'histoire. Le groupe de l'État islamique est parvenu à se forger une véritable indépendance financière. Alors si les djihadistes étaient parvenus à s'emparer d'une richesse colossale gardée dans les coffres des banques de Mossoul, notamment la majorité de son butin provient, on le sait, de la vente de pétrole, mais aussi de la pratique de l'extorsion ou encore des taxes imposées à la population et à la contrebande de pièces d'antiquité, des ressources lui permettant d'atteindre un revenu annuel estimé à 2,6 milliards d'euros. On parle même d'un patrimoine de plus de 2000 milliards d'euros. Mais surtout, Daesh s'est aussi procuré un accès au système bancaire et financier international. Un constat qui a signé le retour en force de l'adage selon lequel le meilleur moyen de détruire une organisation, eh bien, c'est d'assécher ses finances à la poursuite de l'argent du crime. C'est notre sujet ce matin.
Nous sommes en train de détruire l'État islamique sur le champ de bataille et nous allons les détruire. Nous reprendrons les terres qu'ils occupent, nous supprimerons leurs sources de financement, nous traquerons leurs dirigeants et nous les détruirons.
Nous sommes face à un cas qui montre clairement la nécessité de combiner les efforts pour résoudre les problèmes que nous confrontons. En adoptant la résolution 2199, nous franchissons une nouvelle étape dans la suppression du financement des terroristes, surtout en raison de la contrebande de pétrole.
Faire reculer l'anonymat dans l'économie afin de mieux tracer les opérations financières. Mieux surveiller, grâce à la mobilisation en particulier des acteurs financiers dans la lutte contre le terrorisme. Renforcer les capacités de gel contre les avoirs détenus par les financeurs ou les acteurs du terrorisme. L'ensemble de ce plan sera mise en œuvre totalement d'ici le premier trimestre 2016.
Voilà, Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances. On entendait également Vitali Chourkine, l'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies, mais aussi Barack Obama. La plupart des dirigeants de la coalition internationale se sont exprimés en ce sens. Pourtant, à ce jour, aucun embargo n'a été décrété sur le territoire contrôlé par Daesh. L'État islamique semble continuer d'utiliser librement les réseaux bancaires locaux pour accéder aux réseaux bancaires internationaux. Des mesures ont été tout de même prises fin novembre. TRACFIN, la cellule anti-blanchiment de Bercy, exhortait les banques françaises à renforcer leur contrôle pour traquer l'argent sale. Ce rôle leur avait été assigné, on s'en souvient, dès les années 90, mais il n'a cessé, c'est vrai, de se renforcer avec la montée de la menace terroriste. Jeudi prochain, c'est à l'ONU que les ministres des Finances des pays membres du Conseil de sécurité se réuniront pour tenter de trouver de nouveaux moyens, peut-être plus efficaces, pour lutter contre le financement de l'État islamique. Alors, quel est le rôle des banques internationales? Comment peuvent-elles repérer ces flux financiers illicites? Quels sont les mécanismes mis en œuvre par Daesh pour contourner la surveillance? Faut-il imposer des sanctions aux banques utilisées par l'État islamique? Est-ce que les outils utilisés pour traquer l'argent de l'État islamique sont les mêmes que ceux utilisés contre le blanchiment ou la fraude fiscale? Voilà toutes les questions auxquelles, eh bien, nous allons nous intéresser ce matin pour se faire deux invités ici avec nous en plateau. Jacques Terret, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de Transparency International France, ancien avocat fiscaliste.
Non, pas fiscaliste, avocat de banque.
Avocat de banque. Eh ben, ça tombe bien. Jean-Charles Brizard également. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Jean-Charles Brizard. Vous êtes, vous, président du Centre d'analyse du terrorisme, le CAT, et puis co-auteur d'un rapport sur le financement de l'État islamique qui était paru en octobre dernier, mais vous me disiez qu'un nouveau rapport est en préparation. D'abord, je voudrais vous entendre peut-être sur la réaction, finalement, des différents chefs de gouvernement, chefs d'État sur, j'allais dire, la riposte financière. Parce qu'à la suite des attentats de Paris et de Saint-Denis, on a le TRACFIN, je le disais, qui a publié une liste des obligations s'imposant aux banques en matière de lutte contre le financement du terrorisme. C'est un rôle qui leur a été assigné, on s'en souvient, donc il y a une quinzaine d'années, mais qui leur a été expressément rappelé après les attentats, évidemment. On entendait notamment Michel Sapin qui avait demandé cette fameuse note d'une soixantaine de pages, notamment on On y lisait « Les changements dans l'attitude d'un client doivent alerter, mettre en garde les autorités. Le financement du terrorisme peut s'appuyer sur une grande variété d'opérations, virements domestiques ou internationaux, transferts d'espèces, retraits, opérations de change, etc. etc. » Est-ce que vous pensez, Jean-Charles Brizard, et puis je vous donnerai la parole également à Jacques Terray, que les banques ont changé de comportement depuis les attentats, et est-ce qu'on peut s'attendre véritablement à du changement en la matière? Et puis plus globalement, quel regard vous portez sur la riposte financière aux attentats, Jean-Charles Brizard?
Il y a différents volets, hein. Il y a un volet international, vous en avez parlé. Aujourd'hui, je considère que ce qui est fait contre le financement de l'État islamique est insuffisant. S'appuie en grande partie sur des instruments, des outils du passé qui ont pu servir pour contrer notamment et réduire le financement d'Al-Qaïda. Al-Qaïda avait un modèle économique totalement différent, se finançait de l'extérieur, recevait des donations. Donc il y avait des échanges, il y avait des transferts bancaires, monétaires, ce qui n'est pas le cas avec l'État islamique. Donc appliquer les mêmes sanctions aux deux organisations me semble être une erreur. Il n'y a pas de transfert bancaire, je l'ai dit, et le gel même des avoirs, etc., n'a que peu finalement d'impact sur la réalité aujourd'hui financière de l'organisation.
Sachant qu'on d'ailleurs, on peut s'interroger sur l'impact qu'il avait eu à l'époque,
déjà,
lorsqu'il avait été mis en place par les États-Unis, hein, quelques jours après les attentats du 11 septembre, on en parlera tout à l'heure.
Déjà, même sur Al-Qaïda, les mesures de gel des fonds particuliers, parce que c'est la principale mesure, ont permis de geler quoi ? Maximum 100 millions de dollars en tout, sur une période de quoi ? 15 ans pratiquement, c'est-à-dire une part infime également du financement d'Al-Qaïda elle-même. Par rapport à Daesh, non, on est face à une organisation qui tire sa puissance financière de son assise territoriale. Et c'est bien le problème. C'est que à la fois, on frappe cette organisation, on veut réduire ses capacités à exploiter des ressources naturelles, mais en même temps, évidemment, on ne frappe pas ces ressources naturelles elles-mêmes, les puits de pétrole, les champs gaziers, les mines, etc., parce qu'on ne veut pas, bien sûr, appauvrir la richesse de ces pays.
Même si ça a un petit peu commencé, c'est vrai, un changement aussi de stratégie. On a vu les pays de la coalition frapper, par exemple, des convois.
Des convois, mais pas les puits eux-mêmes. On ne doit pas détruire les puits de pétrole eux-mêmes, si vous voulez.
Ouais.
Donc, effectivement, mais il y a un changement. Il y a un renforcement, c'est vrai, de la destruction des moyens de transport, de stockage et de raffinage. Mais pour autant, ça ne suffit pas, on le voit. Il n'y a pas 36 solutions face à cela. C'est soit on peut faire reculer militairement l'État islamique et reconquérir donc des territoires et par voie de conséquence des ressources naturelles, soit on est capable d'imposer un embargo international, sous mandat de l'ONU, on a les moyens de le faire respecter, notamment aérien aujourd'hui de la coalition, et ça nous permettra également de prendre des sanctions à l'égard des pays, des entités privées ou publiques qui violeraient cet embargo. Mais aujourd'hui, cet embargo n'existe pas contre le territoire de l'État islamique. Or, tout ce qui sort, on le sait, de cet État islamique, par définition, est destiné à enrichir cette organisation.
Alors, on va voir justement comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que l'État islamique s'est organisé pour faire sortir la richesse, l'argent du califat. Jacques Terray, votre réaction sur la riposte financière. Vous avez vu, par exemple, notre ministre de l'Économie et des Finances, Michel Sapin, qui a annoncé son intention de mieux contrôler, par exemple, les cartes bancaires prépayées, qui visiblement auraient été utilisées dans les attentats, notamment pour payer des chambres d'hôtel. Concrètement, aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est mieux encadrer, parce qu'elles sont pas du tout tracées, mieux encadrer ces produits, ces objets financiers. Est-ce que ça vous paraît une mesure souhaitable? Est-ce que ça peut avoir des effets bénéfiques ou est-ce que c'est totalement vain?
Non, ça n'est pas du tout vain. Mais si vous voulez, on se trouve devant le problème de l'épée et du bouclier. C'est-à-dire que quand on contrôlera les cartes bancaires, les terroristes, pour lesquels Jean-Charles Brizard est mieux qualifié que moi pour parler, mais les fraudeurs dont je m'occupe trouveront d'autres formules. Donc c'est bien, il faut le faire, mais il faut savoir que c'est une lutte continue et qui ne se terminera pas demain.
On parlera plus en profondeur avec vous tout à l'heure, Jacques Terray, de justement cette lutte globale finalement contre l'argent sale. Mais d'abord, Jean-Charles Brizard, cette question. Je disais, finalement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que Daesh s'y prend pour faire sortir l'argent qu'il tire effectivement de ses différentes ressources? Alors, c'est l'esclavage, c'est les rançons, c'est les taxes locales, c'est évidemment le pétrole, c'est les œuvres d'art. Dans ce paysage, on a en gros un pétrole qui représenterait 1,4 million d'euros par jour. On a aussi le système d'imposition sur la vente d'une multitude de produits qui est une part très importante du butin amassé par Daesh. La grande question, c'est comment on fait pour faire sortir l'argent et intégrer cet argent dans les réseaux bancaires? Essayez de nous expliquer comment est-ce que Daesh s'y prend, Jean-Charles Brizard.
D'abord, il faut expliquer que Daesh, contrairement à une idée reçue, n'est pas un territoire fermé, clos, qui est en vase clos, en quelque sorte. Il y a des échanges quotidien avec l'extérieur, avec les territoires dans le Kurdistan, avec la Turquie, beaucoup également. L'État islamique s'approvisionne en denrées, ne serait-ce qu'alimentaires, dont il ne peut pas disposer sur son propre territoire. Il achète des produits et des denrées. Et puis par ailleurs, vous le disiez, effectivement, et c'est la principale source aujourd'hui de revenus de l'État islamique, 60% tirés des ressources naturelles, l'État islamique vend à des intermédiaires, à des réseaux de trafiquants, etc., un certain nombre de ressources pour générer un revenu. Daesh, par ailleurs, je l'ai dit, contrôle un territoire. Et de ce fait-là, contrôle des établissements industriels, financiers, etc., dont des banques. Aujourd'hui, on estime que Daesh contrôle entre l'Irak et la Syrie 140 succursales bancaires.
D'accord, donc ils sont restés ouverts parce que...
Non, je vais préciser, c'est très important. Voilà. La plupart de ces banques, les banques privées en tout cas, sont toutes fermées aujourd'hui. Demeurent les banques publiques. Les banques publiques n'effectuent plus de transactions internationales. Il y a une forte pression américaine, notamment auprès des régulateurs locaux et auprès des banques centrales, auprès également des sièges de ces banques. Donc il n'y a plus de transactions internationales. Ce ne sont plus que des banques de dépôt aujourd'hui, localement. Comment, effectivement, ces transactions sont opérées sur le plan international par Daesh et par ses intermédiaires? C'est à travers un système informel qui s'appelle l'Awala, qui existe depuis des millénaires dans cette région, qui est un système donc de transfert d'argent informel, qui permet de transférer donc du cash, de transférer d'un pays à un autre, sans transfert physique, sans ni même transfert électronique, donc indétectable.
Et ça, ça s'est... Comment ça se passe concrètement?
Concrètement, on va dans un bureau d'Awala, Awala Dar, comme on dit, en Syrie, on dépose 1000 euros, et on dit voilà, c'est destiné à une personne qui se trouve en Turquie, et qui nous fournit matériel, ou des denrées, etc. Et donc, un autre bureau d'Awala Dar, en Turquie, va mettre à disposition de la personne en question, en Turquie, donc, les mêmes 1000 euros.
Donc, il n'y a pas de transfert de fonds direct entre les deux bureaux.
Pas de transfert. C'est vraiment le système utilisé aujourd'hui par l'État islamique. J'en veux pour preuve le fait que l'État islamique a même émis une régulation, c'est-à-dire vraiment des règles strictes à respecter pour les bureaux d'Awala sur son territoire, parce que la crainte de l'État islamique, c'est effectivement que de l'argent soit reçu par des habitants de son territoire, à des fins d'espionnage en particulier, de l'étranger.
On dit aussi que les banques libanaises ont un rôle assez important justement dans la pénétration du système bancaire.
Alors après, j'y viens, parce que donc l'essentiel des ressources, je le disais, ne fait pas l'objet de transactions bancaires classiques. Il est vendu sur place à des intermédiaires, donc essentiellement en espèces. Après, ces intermédiaires eux-mêmes vont revendre à des sociétés, à des traders éventuellement de pétrole. Et là, effectivement, on entrera dans le schéma classique du système bancaire pour ce type de transaction.
Sachant que le Liban, c'est une plateforme très importante justement pour les transactions sur
notamment
le pétrole.
Notamment sur le plan financier. Le Liban, la Turquie, la Jordanie même, etc. sont des places qui sont par nature et de par leur proximité en particulier, particulièrement vulnérables à ce type de capitaux, malheureusement.
Et on n'arrive pas, Jean-Charles Brizard, à mettre la pression sur le Liban pour qu'il respecte un peu...
Si, les Américains font régulièrement la tournée de ces pays.
Mais le Liban n'est par exemple pas sur la liste noire du groupe d'action financière, le GAFI?
Non, bien sûr, non. Mais encore une fois, les pressions s'exercent, pas nécessairement au grand jour, hein, mais les pressions existent et... Mais c'est vrai qu'il y a des zones particulièrement vulnérables qui peuvent poser problème. Il y a par ailleurs un certain nombre d'enquêtes en cours ou de suspicions à l'égard de traders, effectivement, s'agissant du pétrole, hein, qui se fournirait à bon marché, parce que le pétrole, bien sûr, qui est vendu par l'État islamique est bien moins cher que celui qu'on peut trouver sur le marché international, ce qui attire, bien entendu, des convoitises.
Une fois l'argent arrivé sur ce premier réseau bancaire régional, que ce soit la Turquie, que ce soit le Liban, ensuite comment ça se passe? Il y a un deuxième réseau de banques, peut-être plus international, qui prend le relais?
Ben on est déjà sur ces pays, si vous voulez, sur le marché international, s'agissant notamment du pétrole. Après, il y a effectivement des sociétés qui sont installées au Liban et qui ont des succursales au Liban ou ailleurs dans la région, bien évidemment, et qui font circuler l'argent après de manière tout à fait classique.
Est-ce qu'il y a des membres de Daesh, Jean-Charles Brizard, question peut-être un peu naïve, qui sont spécialisés justement dans les dans les questions de finance. Est-ce qu'on a des profils d'individus qui, par exemple, seraient d'anciens banquiers et qui donc connaîtraient parfaitement le système financier international ?
La volonté de l'État islamique, c'est véritablement, en tout cas affiché, de bâtir un État en tant que tel. Même s'il n'en a actuellement que le nom, c'est une évidence. Mais il s'entoure bien sûr de spécialistes à tous les niveaux, que ce soit sur le plan technique pour générer des revenus à partir des ressources naturelles qu'ils contrôlent. Ils ont maintenu par exemple les équipes d'extraction du pétrole, du gaz, etc. Ils recrutent aussi des spécialistes dans ces domaines. Sur le plan financier, c'est très structuré, très hiérarchisé. Il y a un ministre des Finances, il y a une répartition ensuite par province. C'est décliné sur tout le territoire de l'État islamique. Et surtout, il y a une administration qui est tenue de manière extrêmement précise, s'agissant en tout cas des finances. Donc on a même des traces aujourd'hui, si vous voulez, de tenue de compte de l'État islamique dans les différentes provinces qu'il contrôle.
Et évidemment, dans tout ça, ce qui est très difficile aussi, c'est qu'il y a des intérêts qui se croisent. Il y a quelques jours, par exemple, les États-Unis ont annoncé des sanctions financières à l'égard de George Aswani, qui est un homme d'affaires syrien, détenteur d'une entreprise qui s'appelle ESCO, qui possède des moyens de production d'énergie sur le territoire qui est contrôlé par Daesh. Son entreprise est soupçonnée d'avoir acheté du pétrole à l'État islamique pour le compte de l'État syrien. Donc on voit bien que les intérêts financiers de l'État islamique croisent aussi les intérêts du régime syrien, et puis peut-être aussi croise aussi les intérêts, on l'a vu avec le différend entre la Turquie et la Russie, aussi les intérêts de la Turquie.
Bien sûr, parce que beaucoup d'acteurs dans cette région ont une politique extrêmement ambiguë, à commencer par la Turquie en particulier, mais c'est vrai que l'individu que vous mentionnez avait déjà été désigné par l'Union européenne, et comme intermédiaire entre le régime syrien et l'organisation de l'État islamique. C'est vrai que ces trafics existent, et on nous le dit, entre non seulement le territoire de l'EI, mais la Syrie, de même que du pétrole, encore une fois, va vers le Kurdistan, va en Turquie aussi, et va aux rebelles aussi, aux autres factions rebelles, avec lesquelles, pour autant, l'État islamique peut être en lutte.
On va parler, Jean-Charles Brézard, dans un instant du rôle des pays du Golfe. Mais avant, il y a une question que je voulais vous poser, parce que il semble, en tout cas certaines informations vont dans ce sens, que l'État islamique aurait transformé une partie de sa fortune en bitcoin. Vous savez, c'est ce système financier, système de paiement en ligne, et l'unité de compte d'ailleurs s'appelle aussi le bitcoin. Il y a un site de hackers qui combat Daesh qui a révélé cette information récemment. On parle de 3 millions de dollars qui auraient été transformés en bitcoin. Est-ce que ça vous paraît rentrer dans, disons, la logique financière de Daesh ?
Non, absolument pas. Absolument.
Pourquoi
pas. Parce que, encore une fois, j'entends tout ça, ouais. Et on a enquêté là-dessus. Non, de manière extrêmement marginale, on a vu effectivement des expériences de ce type. On a vu aussi du crowdfunding, mais qui rapportait pratiquement rien. Donc non, tout ça relève du fantasme. Aujourd'hui, concrètement, l'État islamique contrôle un territoire, il exploite des ressources, il les vend sur place, pour l'essentiel, à 99%, c'est vendu sur place. Voilà la réalité.
Donc c'est très marginal.
Mais c'est extrêmement, bien sûr.
Non, je voulais vous poser la question, parce que j'ai lu cette information.
C'est signifiant, je pense, si vous me posez la question, je réponds.
Alors les pays du Golfe, parce qu'on soupçonne très régulièrement ces pays, l'Arabie Saoudite et le Qatar notamment, de financer, ou en tout cas d'avoir financé peut-être dans le passé l'État islamique, ces États évidemment ni ces liens. Le roi Salman d'Arabie Saoudite, qui a pris le pouvoir donc depuis janvier dernier, a ouvert hier à Riyad le sommet annuel des monarchies du Golfe. Il a condamné le terrorisme. L'islam rejette et aborde le terrorisme, car c'est une religion de modération et de tolérance, a affirmé le souverain, soulignant l'engagement de son pays à coopérer et à coordonner la lutte anti-djihadiste avec les pays frères et amis. Voilà ce qu'il a déclaré en ouverture, le roi Salman d'Arabie Saoudite. Quel rôle ces pays, en particulier l'Arabie Saoudite et le Qatar, jouent-ils dans le blanchiment de l'argent de Daesh? Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut les croire lorsqu'ils nous disent qu'ils mettent en œuvre des moyens pour lutter?
Ces régimes, s'agissant en particulier de l'Arabie Saoudite que vous mentionnez, ont toujours eu une politique extrêmement ambiguë, notamment s'agissant de l'Arabie Saoudite à l'égard des mouvements fondamentalistes tels que Al-Qaïda, où ils ont laissé faire pendant de nombreuses années. parce que certains pensaient que voilà, ils y voyaient leur intérêt aussi, que Al-Qaïda fasse son djihad en Afghanistan ou ailleurs dans le monde, et surtout pas en Arabie Saoudite, si vous voulez. Donc ils laissaient faire avec une certaine complaisance ce qui se produisait sur son territoire, à savoir le financement par des entités privées ou des institutions, notamment des ONG, laisser passer ce financement. Et puis il y a eu 2003, les attentats de Riyad, ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte que cette menace finalement se retournait contre eux. De la même manière qu'aujourd'hui avec l'État islamique, l'Arabie saoudite est clairement visée comme un ennemi
par
l'État islamique. Oui. Non, ce qui se produit, si vous voulez, en tout cas s'agissant de cette organisation, et depuis maintenant de nombreuses années, les prédécesseurs de l'État islamique, Al-Qaïda en Irak, etc., à partir de 2006-2007, ont souhaité, parce qu'ils contrôlaient un territoire, et tout est venu de là, se rendre indépendants, ne plus dépendre de la manne financière extérieure. Et ça a été une décision qu'ils ont prise. C'est-à-dire qu'ils recevaient bien sûr des donations de bienfaiteurs, etc. En 2006, les donations ne représentaient déjà plus que 5% du financement de cette organisation. Ils ne voulaient plus dépendre de la stratégie aussi de leurs donateurs. Et puis parce qu'encore une fois, ils étaient autosuffisants quasiment sur le plan financier avec ce dont ils disposaient sur place. La même chose s'applique aujourd'hui à l'État islamique. Et on estime que les donations ne représentent plus que 2% de son budget. Il y en a toujours.
Mais elles existent encore.
Elles existent encore, bien sûr.
Avec quel lien, concrètement avec les pouvoirs, les régimes en place?
Non, il y a des individus. Ce ne sont pas des décisions gouvernementales. Ce sont des individus qui, localement, dans les pays du Golfe, bien sûr, décident de financer, d'apporter leur soutien à une organisation djihadiste, terroriste, et le font. En espèces, régulièrement. Voilà, ça existe encore, c'est une réalité. Et des individus, d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que des individus sont régulièrement désignés par les autorités américaines, par l'ONU, pour leur soutien financier à des organisations terroristes comme Daesh ou comme Jabhat al-Nusra.
Et les régimes en place, saoudiens et qataris, également font la traque. Parce que, par exemple, le Qatar a annoncé qu'il avait mis en place une commission chargée de contrôler les flux financiers.
Oui, on a attendu très longtemps.
Quelle crédibilité est-ce qu'on peut leur accorder?
Ces régimes, à commencer encore une fois là par l'Arabie Saoudite, hein, a longtemps effectivement promis la mise en place d'une structure qui permettrait de contrôler
le Qatar, c'est pas une promesse, la commission existe. Après, quelle bilan on peut en faire, mais
historique,
elle existe.
Historiquement, voilà, on a eu des promesses pendant très longtemps, ça a mis très longtemps à se mettre en place. Et pourquoi aussi? Parce que ces organisations caritatives, en l'occurrence, dans ces pays, elles gèrent un argent qui est la zakat, donc c'est un impôt religieux. Donc c'est une question extrêmement sensible dans ces pays. Réguler la zakat, c'est pas venu de soi. C'est venu après des pressions énormes, notamment des Américains. L'Arabie Saoudite a mis en place effectivement une régulation. D'autres pays le font ou l'ont déjà fait. Mais voilà, c'est progressif et c'est extrêmement compliqué à mettre en place.
Mais il y a eu de véritables changements.
Il y a eu un changement, bien sûr. C'est indéniable. Ces pays d'abord coopèrent mieux sur le plan international, avec les justices d'autres pays qui leur demandent souvent des informations. Ils mettent en place des systèmes qui permettent, en tout cas, de mieux contrôler. Ça ne contrôle pas tout, mais de mieux contrôler les flux. Donc tout ça est bien sûr...
Et les banques coopèrent mieux. SwissLeaks, le nom de cette affaire révélée en février 2015, qui a montré le système de fraude fiscale et de blanchiment d'argent qui aurait été mis en place par la banque britannique HSBC à partir de la Suisse. HSBC qui est l'une des banques, disons, les plus sulfureuses. En tout cas, elle collectionne les affaires en matière d'argent sale. On a appris notamment que la banque abritait des financiers d'Al-Qaïda. Il y a notamment certains noms de la fameuse Golden Chain, la fameuse chaîne en or d'Oussama Ben Laden qui était abrité, disons, par cette banque-là. Est-ce que depuis cette affaire-là, HSBC a pris des mesures? Est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'elle fait partie du réseau financier utilisé aujourd'hui par Daesh?
On n'est jamais sûr à 100% qu'une banque ait pris toutes les mesures nécessaires, si vous voulez. Mais il y a tellement aujourd'hui d'obligations qui pèsent sur les banques que encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Mais je dis que là, véritablement, dans ce domaine, en tout cas, on limite au maximum le risque. Maintenant, le risque existe toujours. Vous parliez du microfinancement tout à l'heure, avec le financement effectivement de voitures, d'appartements pour les attentats de Paris. Le vrai sujet, c'est pas finalement la capacité des banques à effectuer ces contrôles. Elles le font, bien évidemment. C'est souvent le manque de contact et de croisement entre le secteur public et le secteur privé. L'idée de croiser les fichiers, de faire en sorte que TRACFIN puisse directement communiquer avec des banques, puisse communiquer notamment sur des profils d'individus. C'est très important parce que les banques, bien souvent, ont connaissance d'agissements qui sont anormaux sur le plan financier, de la part d'individus, qui peuvent révéler un projet, soit terroriste, soit un projet de départ djihadiste, par exemple. Et certaines des banques, avec lesquelles je m'entretiens régulièrement, se plaignent du manque de dialogue avec les autorités publiques sur ce domaine précis. Elles ont connaissance d'agissements, mais aujourd'hui, la seule instance, entre guillemets, de dialogue, ce sont ces déclarations de soupçons. On n'est pas nécessairement dans le cadre d'une déclaration de soupçon, mais on a connaissance de flux qui peuvent paraître anormaux et suggérer, encore une fois, des projets. Et ça, il est important que TRACFIN puisse constituer cette interface entre le public et le privé.
On va justement s'intéresser à cette interface, finalement, entre le monde de la finance, disons, et le monde de la sécurité. Merci beaucoup, Jean-Charles Brizard,
d'être
passé dans nos studios. Je sais que vous avez très bientôt un rendez-vous. Donc, je vous libère. Un grand merci. Je rappelle, président du Centre d'analyse du terrorisme et puis co-auteur de ce rapport sur le financement de l'État islamique, qui était paru l'année dernière en octobre 2014, et un nouveau rapport devrait bientôt être publié. Merci beaucoup, Jean-Charles Brizard.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde autour des banques cette semaine et aujourd'hui à la poursuite de l'argent du crime. Nous allons nous intéresser donc à cette interface, je le disais, entre le monde de la banque et le monde de la sécurité. On va se diriger vers Montréal pour retrouver Anthony Amicel, qui est chercheur au Centre international de criminologie comparée. Alors vous rappelez, Anthony Amicel, que après le 11 septembre, parce qu'il faut revenir aussi à l'histoire, à cette histoire de la lutte contre l'argent du crime, l'argent du terrorisme, l'une des premières réponses de l'administration américaine à l'époque, c'est la lutte contre les réseaux permettant le financement d'Al-Qaïda. Dès le 24 septembre 2001, George W. Bush promulgue un décret dans lequel une trentaine d'individus et organisations voient leurs avoirs financiers gelés. Quel bilan est-ce qu'on peut faire, Anthony Amicel, aujourd'hui, du versant financier de la lutte contre Al-Qaïda ? Est-ce qu'elle s'est avérée efficace, et plus efficace en tout cas que l'intervention armée dont on a beaucoup critiqué l'efficacité, notamment en Afghanistan et en Irak, bien sûr ?
Alors, le bilan, il serait double, à la fois sur les pratiques et sur les résultats. Comme vous l'avez effectivement mentionné, une des premières réponses américaines, ça a été d'insister sur les sanctions financières, et notamment à travers les listes de personnes considérées comme terroristes, afin de geler leurs avoirs financiers dans les comptes bancaires. La critique qui a été formulée sur ce point, c'est que finalement, le volume financier, si vous annoncez bloquer 5 millions, c'est très efficace si c'est 5 millions sur 6, mais si c'est 5 millions sur plusieurs dizaines ou centaines de millions, on voit que l'efficacité peut se discuter.
Sans compter qu'on pourrait se dire, Anthony Amicel, pardon de vous couper, que finalement il y a un paradoxe dans le fait de vouloir absolument geler les avoirs, parce que geler des avoirs, ça rend impossible évidemment le suivi des actions, des agissements des personnes soupçonnées. Observer les mouvements d'un compte bancaire permet quand même de lire beaucoup de choses, ça permet d'établir des liens entre différents acteurs, ça permet de voir quelles sont les dépenses effectuées, ça permet de voir par exemple qu'une personne s'est acheté un billet d'avion au hasard pour la Turquie, pour peut-être partir du côté de la Syrie pour faire le djihad. Du coup, on se demande si finalement, geler un avoir, c'est vraiment un outil efficace.
Effectivement, il y a eu tout cet accent mis sur finalement l'argent nerf de la guerre, au sens où, pour reprendre la rhétorique de lutte contre ou de guerre contre la drogue précédente, qui était de dire si nous bloquons ou attaquons les criminels et par extension les terroristes au portefeuille, nous allons porter atteinte ou voire annihiler leur organisation. Ça, on en est relativement revenu, à la fois parce que il y a des difficultés en termes de gel des avoirs, tout simplement en matière d'identification, parce que ça a également posé des problèmes en termes de respect des droits fondamentaux de liberté. Les personnes qui sont listées dans ce cadre-là sont listées sur mesures administratives basées sur des renseignements confidentiels, donc c'est extrêmement difficile pour elles de faire valoir leurs droits si jamais il y a erreur en termes de listing et ensuite de gel. Mais effectivement, la deuxième logique qui a été mise en œuvre, c'est celle que vous évoquez. Réfléchir non pas simplement en termes de bloquer les fonds, mais davantage de laisser circuler, de savoir où l'argent circule, pour éventuellement essayer de cartographier des réseaux, soit criminels, soit terroristes. Mais encore là, il y a énormément de difficultés sur ce type de pratique, mais en pensant davantage finalement l'argent, non pas comme un point de blocage, mais comme une source de renseignement. Et effectivement, quand on parle de renseignement financier, on est exactement dans cette thématique-là.
Oui, surtout que, et vous avez raison de le rappeler, on n'est jamais sûr dans ce cas-là d'atteindre finalement les bonnes cibles. Vous rappelez par exemple cette affaire d'une entreprise somalienne dont on avait coupé finalement les robinets à une entreprise de transfert de fonds qui avait été fermée, qui s'appelle Al Barakat. C'est les États-Unis qui soupçonnaient cette entité d'organiser des mouvements financiers pour Al-Qaïda, sauf que on ne sait pas trop si ça a eu véritablement des effets s'agissant d'Al-Qaïda, du réseau terroriste, mais en revanche, on sait que ça a eu des effets pour les Somaliens qui attendaient des envois de fonds venus de la diaspora.
Exactement. Mmh. On est vraiment sur des logiques administratives, exécutives, basées sur du renseignement. Mmh. Et donc, le recours judiciaire ou finalement le mécanisme judiciaire est mis de côté. Mmh.
Tout dernier point sur le 11 septembre. Est-ce qu'au bilan, vous diriez, Anthony Amicel, que ces attentats du 11 septembre et puis les mesures qui ont été prises derrière ont constitué une rupture dans la politique générale des États-Unis, dans cette lutte contre le blanchiment d'argent en général ?
Alors, juste avant le 11 septembre 2001, il y a eu un changement d'administration présidentielle, donc c'était l'arrivée de l'administration Bush, qui était très critique de cette lutte contre le blanchiment, auquel l'administration Clinton avait essayé d'associer les enjeux fiscaux. Et finalement, il y avait une remise en cause à la fois de l'efficacité et même de l'existence même de cette lutte anti-blanchiment. Or, le 11 septembre arrive et le discours change radicalement. Les personnes qui étaient les plus critiques vis-à-vis de ce dispositif de renseignement, de surveillance financière, deviennent ses plus fervents promoteurs, en y associant le financement du terrorisme.
Alors, vous avez eu l'occasion, vous, Anthony Amicel, de vous plonger dans des institutions européennes à Bruxelles et auprès d'acteurs bancaires et policiers à Londres. Vous avez fait tout un travail d'analyse sur le terrain. Vous avez réalisé une multitude d'entretiens, justement, avec tous ces acteurs. Ces dernières années, finalement, on a des acteurs issus, disons, du monde de la finance qui ont fait leur entrée, de fait, dans le monde de la sécurité. Et puis, inversement, la sécurité a, elle aussi, pénétré l'univers de la finance. Finalement, l'anti-blanchiment, c'est ce que vous dites, est à l'interface entre ces deux univers, ces deux domaines. Ce que vous dites, c'est que la coopération entre agents bancaires d'un côté et puis agent, disons, sécuritaire policier de l'autre, repose sur un malentendu. Pourquoi ?
Oui, exactement. Si vous voulez, il y a aussi une dimension historique à prendre en compte qui est relativement importante. Quand j'évoquais tout à l'heure l'association à partir du 11 septembre 2001 entre blanchiment d'argent et financement du terrorisme, c'est qu'effectivement, la question du financement du terrorisme a été incluse dans les dispositifs anti-blanchiment. Or, ces dispositifs anti-blanchiment, qui ont été créés principalement à la fin des années 80, début des années 90, reposent sur deux objectifs. Un premier qui est certes la lutte contre la criminalité, à l'époque la lutte contre les trafiquants de drogue, mais en même temps la protection du système financier. Donc il y a toujours eu cette volonté d'associer ou d'équilibrer deux objectifs qui certes ne sont pas antagonistes, mais se situent sur deux plans différents, la protection du système financier et la lutte contre la criminalité. Et clairement, la lutte contre l'argent sale, blanchiment d'argent et financement du terrorisme, est le point de rencontre d'une constellation d'intérêts, de différents acteurs, des acteurs sécuritaires et des acteurs financiers, qui se retrouvent sur cet enjeu-là, mais avec finalement une divergence d'interprétation, donc un malentendu, sur les objectifs poursuivis. Pour les acteurs financiers, l'objectif est de protéger le fonctionnement existant, l'ordre existant du système financier. Et pour les acteurs de la sécurité, l'objectif est évidemment de lutter contre différentes formes de violences criminelles et terroristes.
Et ces tensions, finalement, ce malentendu entre le monde bancaire et le monde sécuritaire, s'incarnent dans un métier que moi j'ai découvert, que je ne connaissais pas, qui s'appelle agent de conformité anti-blanchiment.
Exactement. C'est un métier, une profession qui a été créée au début des années 90, qui représente cette fonction et cette lutte anti-blanchiment contre le financement du terrorisme au sein des institutions financières. C'est, si vous voulez, l'acteur principal qui est chargé de rendre la banque conforme vis-à-vis des attentes en termes d'anti-blanchiment et de financement du terrorisme, qui est censé mettre en place un système de surveillance et qui est censé évidemment divulguer des informations, faire ce qu'on appelle des déclarations de soupçons aux acteurs du renseignement et notamment les cellules nationales de renseignement financier.
Ce que je voudrais comprendre, c'est finalement quel est le pouvoir de cet agent de conformité anti-blanchiment. Dans quelle mesure est-ce qu'il peut faciliter ou au contraire bloquer, disons, une enquête sur un de ses clients ? Est-ce que finalement son activité, son action, elle se fait toujours dans un cadre parfaitement légal, parfaitement formel, où il y a aussi des choses qui passent aussi, bon, par l'informel, quoi ?
Alors, en deux points sur cet aspect-là. Le premier point, c'est pour insister sur le malentendu et cette position finalement assez ambivalente de l'agent de conformité qui est le représentant anti-blanchiment dans des institutions financières. Ce malentendu, il s'incarne très bien dans une notion, dans une approche qui est l'approche par le risque. Au cours de mes entretiens, effectivement, j'avais été surpris de voir que à la fois les acteurs du renseignement et à la fois les acteurs financiers partageaient ce vocabulaire du risque, ce qui était présenté comme le nouvel espéranto entre ces acteurs financiers et sécurité. Ils partageaient cette idée de risque en disant « nous sommes tous là, malgré les frustrations, malgré les tensions, pour gérer le risque d'argent sale ». Mais effectivement, au-delà d'utiliser le même mot, ils ne parlaient pas de la même chose. D'un côté, les acteurs policiers ou du renseignement, quand ils évoquaient cette notion de risque d'argent sale, ils avaient en tête avant tout un risque pour la sécurité, un risque, si vous voulez, pour la société en termes de violence criminelle ou terroriste. De l'autre côté, les acteurs financiers, et notamment les agents de conformité, eux avaient davantage en tête le risque pour leur institution, un risque financier, un risque réputationnel et un risque judiciaire. Donc vous aviez, si vous voulez, d'un côté, une manière de penser le risque comme un risque sociétal et de l'autre, comme un risque institutionnel. Et là, vous avez des tensions potentielles. Le deuxième point que je souhaitais évoquer, c'est qu'effectivement, ce pouvoir discrétionnaire des agents de conformité peut aussi varier selon les rapports de force au sein d'une banque. C'est-à-dire que dans certains cas, effectivement, les agents de conformité sont suffisamment, entre guillemets, puissants pour avoir accès au directeur de la banque et dire, dans ce cas précis, je ne vous conseille pas de faire cette relation d'affaires ou je conseille de déclarer, de dénoncer finalement ce client ou cette transaction aux autorités. Dans d'autres institutions financières, ça peut être extrêmement difficile pour eux. Ce qui fait qu'une expression, par exemple, circule en disant finalement, un bon agent de conformité, c'est comme un bon tapis. Si on peut marcher dessus pendant très longtemps, c'est très utile.
Et alors, sur le deuxième point que j'évoquais, Antonia Missel, c'est-à-dire à savoir, est-ce que les liens, finalement, entre l'agent de sécurité et l'agent bancaire se font toujours de façon parfaitement formelle et de façon parfaitement légale, ou est-ce que parfois, il y a aussi des choses moins encadrées, j'allais dire?
C'est de plus en plus encadré, mais effectivement, il y a toujours une certaine part donnée à l'informel. Au sens où, bien sûr, il y a des déclarations de soupçons, mais quand des agents de renseignement ou des agents de sécurité souhaitent recevoir ou avoir accès à des informations, ils vont pouvoir téléphoner, notamment au Royaume-Uni, à ces fameux agents de conformité dans les banques pour leur dire « Avez-vous des informations sur X ? La situation est Y. » Et effectivement, l'agent de conformité à sa propre discrétion, dans certains cas, peut dire « Je considère que la situation est assez grave, que nous avons tant d'informations sur cette personne, nous allons les diffuser avant même de recevoir le mandat judiciaire. » Donc il peut y avoir ces pratiques-là. De là à savoir si, au-delà d'être effectif, de produire des effets, c'est efficace au nom des objectifs attendus, d'un côté blanchiment d'argent, de l'autre lutte contre le financement du terrorisme, là ça reste bien plus ouvert en termes de réponse.
Voilà, Antonia Missel depuis Montréal, chercheur au Centre international de criminologie comparée. Réaction avec vous, Jacques Terré, on vous a gardé en plateau. On va évoquer avec vous la lutte contre l'argent sale en général et pas seulement lorsqu'il s'agit d'entités terroristes. Une réaction au propos d'Antonia Missel avec effectivement ce métier là qui a émergé dans le monde de la banque ces dernières années. L'agent de conformité anti-blanchiment, on voit que les choses ne sont pas toujours simples dans cette relation entre le monde de la banque et le monde de la sécurité.
Oui, les choses ne sont pas simples pour ceux qu'Anthony Avicel appelle les agents de conformité. C'est un métier extrêmement dangereux. Dangereux pour ceux qui l'exercent. Je ne veux pas dire dangereux physiquement, mais je veux dire que ce sont des gens qui sont constamment pris entre le marteau et l'enclume, ou bien ils dénoncent des agissements, qu'ils constatent, par exemple, un manque de rigueur de la part des commerciaux, de la part des et à ce moment-là, la direction générale va leur dire mais vous faites du mauvais esprit, vous nous empêchez de faire notre boulot, ou bien au contraire, ils vont fermer les yeux et à ce moment-là, quand il arrivera un scandale, on dira mais comment l'agent de conformité n'avait rien dit. Ouais. Et donc je pense qu'il ne faut pas trop miser sur les agents de conformité. Ce sont, moi j'en connais, notamment dans les grandes banques françaises, qui sont des gens remarquables et d'une honnêteté absolument hors de doute, mais qu'ils ont un métier qui est très difficile et ils ne peuvent pas tout faire.
Jacques Terré, de façon générale, on a beaucoup parlé avec Jean-Charles Brizard du financement de Daesh. Est-ce que vous avez le sentiment que la lutte contre l'argent de Daesh peut se faire avec les mêmes outils que ceux qui sont utilisés de façon plus globale contre le blanchiment, contre la fraude fiscale? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a là des spécificités et donc des outils peut-être nouveaux à mettre en place?
J'ai été très intéressé par l'analyse qu'a fait Jean-Charles Brizard, qui me confirme dans l'idée que c'est un problème très différent de celui de l'argent du crime en général. D'une part, parce que, comme Jean-Charles Bizard l'a dit, il s'agit d'un territoire. Maintenant, ils ont un territoire, même si les limites en sont fluctuantes. Mais c'est bien un territoire et c'est donc un pays. C'est une sorte de pays dans lequel ils puisent des ressources et ils les commercialisent sur place. À la différence des trafiquants de drogue qui, eux, n'ont pas de territoire. Hein. Et puis, deuxièmement, il y a un problème massif qui est un problème de dimension. Quelle que soit l'importance de Daesh, c'est très petit par rapport à la masse d'argent illicite qui circule dans le monde. Je vous cite un chiffre du Global Financial Integrity, qui est un think tank de Washington, le meilleur sur ce domaine-là, et qui dit que en 2013, il y a eu 1000 milliards de dollars de transferts illicites dans le monde. 1000 milliards en 2013. Sur 10 ans, il y en a eu 8000 milliards. Autrement dit, on est dans des chiffres considérables auprès desquels, je dirais presque que Daesh, c'est une aiguille dans une meule de foin. Et par conséquent, les outils que l'on a pour combattre l'argent illicite ne peuvent pas être les mêmes que ceux, par exemple, on parlait de la sécurité, des agents de sécurité. Les agents de sécurité, ils sont, on a vu à quel point, malheureusement, en France, ils peuvent être dépassés dès qu'il y a plus de 2000 ou 10 000 personnes fichées. On voit bien que ça n'est pas de la même échelle.
Voyons quelles sont les avancées, Jacques Terrat, en matière de lutte contre l'argent sale en général. Il faut parler du GAFI, le groupe d'action financière qui a été créé en 1989 par le G7, qui est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme. Mais le problème peut-être du GAFI, c'est qu'il a des pouvoirs relativement limités. En réalité, il n'a qu'un pouvoir de recommandation. C'est peut-être l'une des difficultés. Il faudrait peut-être lui donner plus de pouvoir, un pouvoir d'action plus fort.
Le problème majeur, à mon sens, du GAFI, qui par ailleurs a fait un magnifique travail avec ses recommandations, hein, il a vraiment dessiné ce qui est actuellement le dispositif de lutte anti-blanchiment dans le monde.
C'est quoi les principales recommandations?
Il y a 40 recommandations, plus 9 pour le terrorisme. Les 40 recommandations sont essentiellement de bien connaître, que chaque banque connaisse ses clients. Connaissent ses clients, soient capables de repérer ceux qui envoient l'argent et à qui on les envoie, quel a été l'objet, pourquoi est-ce qu'on a envoyé cet argent, hein, ça c'est l'essentiel.
Et puis à partir... Sauf que visiblement, c'est pas une recommandation qui est suivie par les banques.
Alors on va y venir.
Beaucoup d'entre elles ne connaissent pas leurs clients précisément.
On va y venir dans la suite. Mais si j'en reste aux recommandations du GAFI, ce qu'il a dit, c'est que il faut que le GAFI s'adresse aux États, pas aux banques. Hein. C'est une de ses faiblesses, le pauvre. Et donc, il dit aux États, mettez en place un dispositif par lequel les banques vont vous faire les déclarations de soupçons dont parlait Jean-Marc Bizard tout à l'heure.
Oui, donc il faut que les États suivent et appliquent finalement dans leur loi les recommandations du GAFI.
Voilà.
Et c'est ça qui pose problème.
Et le GAFI, il est limité à ce que lui disent les États. Hein? Il ne peut pas, il n'a pas d'inspection directe sur place chez les banques. Donc les États ont tendance à lui dire la main sur le cœur, qu'ils respectent absolument ses recommandations, mais c'est variable selon les États.
Il y a des États justement qui ont adopté, disons, des règles, des lois dans le prolongement des recommandations du GAFI.
Ah, il y en a eu centaines d'États. Les recommandations du GAFI ont été très, très transcrites dans les lois nationales. Le problème, c'est que une loi, c'est une chose, mais l'application de la loi est différente.
Alors, vous dites que ça a été appliqué par un certain nombre de pays. Pour le moment, on a une liste de pays, disons, défaillants en matière de coopération sur les informations bancaires. Alors, il y a un certain nombre de pays qu'on retrouve sur cette liste. Je vais vous les donner. Bolivie, Cuba, Équateur, Éthiopie, Ghana, Indonésie, Kenya, Birmanie, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Turquie, Vietnam, Yémen et l'Iran et la Corée du Nord, que le GAFI voudrait voir prendre des contre-mesures. Quel crédit est-ce qu'on peut accorder à cette liste? Et puis sur quels critères est-ce qu'on a établi cette liste justement? Tiens, par exemple, on parlait tout à l'heure des banques libanaises, le Liban n'est pas dedans.
Non, je vais vous dire, pour moi, cette liste n'a pas beaucoup de sens. Parce que l'argent, en général, il ne passe pas par ces pays-là, ou du moins, il ne se concentre pas dans ces pays-là. L'argent, où est-ce qu'il va ? Une fois que l'argent a été blanchi, hein, et qu'il est dans le circuit bancaire international, il se dirige vers les grandes places financières internationales. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a quatre. Hein. Il y a Londres, New York, hein, Hong Kong et Singapour. Hein. Bon, et ce qui est important à voir, c'est comment ces flots d'argent convergent vers ces grandes places financières. Et je vais prendre un exemple tout simple, qui est la place de Londres. Hein. La place de Londres donc la deuxième place mondiale, ou la première pour certaines opérations. La place de Londres, elle accueille l'argent, c'est une grande partie de ses recettes. Il faut qu'elle recueille tout l'argent possible. Alors, il faut pas être trop curieux sur l'origine des fonds, sinon ils viennent pas. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous avez, en Angleterre même, la surveillance est très très au point. Hein. Mais, on permet à des entreprises ou à des personnes même, de créer une société dans une des dépendances de la couronne britannique. Hein. Je prends l'exemple des British Virgin Islands, les îles Vierges britanniques. Hein. Quelqu'un à Londres ou dans l'Angleterre en général, un conseiller juridique, fiscal, comptable, va téléphoner à son correspondant aux îles Vierges britanniques, va dire « Monsieur Intel que j'ai dans mon bureau voudrait créer une société chez vous. Hein? » Et c'est cette société-là qui va investir sur la place de Londres. Je vous cite quelques chiffres sur les îles Vierges britanniques. Hein? Ça date de 1984, la législation qui en a fait une place assez opaque. Hein? Bon. En 2011... Vous aviez, je m'excuse, c'est en petit chiffre. Hein.
Allez-y.
Vous avez, en 2011, ils ont acheté pour 3,5 milliards d'immeubles à Londres. Bon, vous avez 28 000 habitants, hein, aux îles Vierges britanniques. Eh bien, vous avez 16 sociétés par habitant, c'est-à-dire que vous avez 457 000 sociétés actives aux îles Vierges britanniques. Vous voyez, dit, c'est à partir de ce réseau de possession, eh bien, vous avez beaucoup d'argent blanchi qui arrive à Londres.
Mais on continue à se poser des questions, Jacques Deret, parce que vous nous disiez, le GAFI a donné ses recommandations, un certain nombre d'États, effectivement, ont appliqué ces recommandations à travers les lois. Regardons, par exemple, ce qui se passe du côté de l'Union européenne. LuxLeaks, le nom du scandale financier révélant le contenu de centaines d'accords fiscaux très avantageux conclus avec le fisc luxembourgeois par des cabinets d'audit pour le compte de nombreux clients internationaux. Il avait été révélé en novembre 2014, souvenez-vous.
Je ne m'excuse pas pour ce que j'ai pu faire pour mon pays. Évidemment, politiquement, je suis responsable par tout ce qui est fait par l'administration fiscale. La commission que j'ai l'honneur de présider va lutter contre l'évasion fiscale.
LuxLeaks a révélé aux 500 millions de citoyens européens qu'alors que chacun d'eux paye des impôts, parfois des impôts qui ont augmenté ces derniers temps, les plus grandes multinationales arrivaient à échapper à la plus grande partie de l'impôt. C'est scandaleux, c'est intolérable.
Ce qui se passait avec les rulings, que ce soit chez nous ou ailleurs, était légal. Mais ce n'était peut-être pas moralement ou éthiquement défendable. Je pense que les mentalités ont beaucoup évolué, tant au niveau des gouvernements, mais aussi des populations, pour faire en sorte que nous ayons un système fiscal international plus équitable.
Eh oui, voilà, LuxLeaks avec Jean-Claude Juncker, vous avez peut-être reconnu sa voix, tout fraîchement à l'époque nommé président de la Commission européenne, qui était directement touché par ces révélations, puisqu'il était l'ancien, il avait été le Premier ministre du Luxembourg. C'est quoi les avancées concrètement en matière de lutte contre l'évasion fiscale au niveau européen? Parce qu'on a mis en place une commission à la suite de tout ça, une commission spéciale présidée par Alain Lamassoure. Son mandat s'est achevé le 2 décembre dernier, là, il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il en est sorti concrètement? On attend toujours.
Non, le procès qui est fait aux multinationales, c'est effectivement de se servir, de jouer entre les différents pays où elles sont établies, hein, pour dégager le bénéfice dans le pays où l'imposition est la plus faible. Ce qu'on critique le plus, c'est que par cette méthode-là, il donne consistance à ces îles paradisiaques, hein, qui n'ont aucune activité économique et qui servent en dehors des multinationales à qui servent à cacher l'argent des gens corrompus, des trafiquants de drogue, etc. Hein. Et donc le problème des multinationales, il est ce qu'il est, mais la différence entre les multinationales et le reste de l'argent illicite, c'est que les multinationales, elles publient des comptes consolidés, hein, donc on sait d'où ça vient et où ça va.
Ouais, enfin, on manque encore beaucoup en termes d'échange automatique d'informations, on n'y est quand même pas tout à fait encore. Oui. Et les deux sont liés pour le coup.
Mais l'échange automatique d'informations ne cherche pas à traquer les multinationales. Ce qui cherche à traquer les multinationales, et qui est un outil qu'on met très très difficilement en place en ce moment, c'est la comptabilité pays par pays. C'est-à-dire d'obliger les multinationales de dire où est-ce qu'elles font leurs opérations et où est-ce qu'elles dégagent leurs bénéfices. Quand c'est pas la même chose, il y a problème.
Hein. Est-ce que vous pensez, toute dernière question Jacques Théret, parce qu'on arrive au terme de cette émission, est-ce que vous pensez que des banques seront reconnues coupables un jour par des justices pour financement du terrorisme? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble plausible? L'année dernière, il y a eu une banque jordanienne en l'occurrence, qui s'appelle Al-Arab Bank, qui a été condamnée par la justice américaine pour avoir financé le Hamas. Est-ce que c'est des choses qu'on verra à l'avenir?
Ah, certainement. Il y a, le problème, il est de l'information. Il faut arriver à traquer ceux qui s'en occupent. Mais effectivement, les Américains sont dessus et les Européens aussi.
Donc ça pourrait faire jurisprudence, cette affaire.
Absolument.
Merci beaucoup, en tout cas, Jacques Théret, d'avoir été avec nous, vice-président de Transparency International France. Merci d'avoir été avec nous ce matin et nous avoir éclairé sur cet argent du crime. On peut bien sûr retrouver cette émission sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Dans un instant, sur France Culture, c'est La Grande Table avec Caroline Brouet. Mais juste avant de la retrouver, c'est comme chaque jour sur France Culture à cette heure-ci, La Vie Moderne. Très belle journée et à demain.